Oui, bonjour. Bonjour, chers amis. Donc, heureux de pouvoir partager avec vous le plan du salut. Hein. Donc, cette étude est là pour que vous puissiez découvrir le Christ. Et c'est pourquoi nous allons utiliser simplement 6 versets des Écritures, donc de la Bible, la parole de Dieu, pour voir quel est le chemin du salut que Dieu nous a donné en la personne de Christ. Voilà, je vous invite, on va prier et sachez que nous vous invitons à ouvrir la Bible et ensemble, eh bien, nous allons cheminer au travers de 6 versets. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ce temps et nous prions maintenant que tu viennes ouvrir notre entendement. Nous renversons toutes sortes de forteresses de religion, forteresses de raisonnement et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci pour l'esprit de révélation maintenant, alors que nous allons ouvrir les Écritures, et bien qu'au travers de ces 6 versets, et bien notre ami qui écoute cette étude et bien puisse être convaincu par les Écritures, Seigneur, que tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voilà, je vous invite, on va ouvrir la Bible dans Romains chapitre 3, verset 23. Vous voyez, donc Romains. C'est un livre du Nouveau Testament, et donc quand on dit 3, bien c'est le chapitre 3, et 23, c'est le verset 23. Donc je vous laisse le temps d'ouvrir votre Bible, donc dans Romains chapitre 3, verset 23. Nous lisons, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'est le péché aux yeux de Dieu? Oui, peut-être c'est tuer, voler, dire du mal des autres, c'est vrai. Toutes ces choses offensent Dieu. Mais nous pourrions les résumer en disant, c'est vivre comme si Dieu n'existait pas, ou encore vivre sans donner à Dieu la place qui lui revient. Ça, c'est péché. Qui a péché? Eh bien, ce texte nous dit que tous les hommes ont péché. Oui, c'est ce qu'affirme ce texte. Reconnaissez-vous que cela est aussi vrai pour vous? Eh bien, oui, puisque nous sommes tous les hommes. Et nous sommes, vous voyez, au travers du péché, ça veut dire séparés de Dieu. Nous allons le voir. Par exemple, si nous regardons ce que Dieu fait, par exemple, la création, un coucher de soleil, l'aile d'un papillon ou le sourire d'un enfant, quelque chose nous dit qu'il doit être merveilleux, intelligent, puissant, sage, qu'il y a un créateur. Et pourtant, ici-bas, nous connaissons la détresse, la solitude, l'angoisse parfois, et c'est loin d'être la beauté, l'harmonie dans notre être intérieur. Et pourquoi cette tension, cette différence? Parce que nous sommes, à cause de notre péché, privés de la présence glorieuse de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Allons plus loin, deuxième verset, c'est Romains chapitre 6, verset 23. Donc vous notez, vous allez ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 6, verset 23. Nous lisons. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Car la récompense du péché, c'est la mort. Nous avons vu que tous les hommes ont péché et sont privés de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Et nous voyons que la conséquence, le salaire, ce qui est mérité, la récompense, eh bien, du péché, eh bien, c'est la mort. Dieu, parce qu'il est juste, ne peut et ne pourra jamais fermer les yeux sur le mal que nous avons commis et nous en sommes seuls responsables. Nous pouvons être aussi, avoir été, je dirais, victimes de différents comportements méchants. Il doit nous donner ce que nos fautes méritent. Voyez, la mort ici n'est pas seulement celle dont témoignent les cimetières, mais signifie également une rupture de relation. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la rupture de relation. Premièrement avec Dieu, comme nous l'avons compris dans le passage précédent, nous sommes privés de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, de la gloire de Dieu. Deuxièmement avec les autres, par la médisance, la jalousie, l'orgueil, la suspicion. Par exemple, un père peut en arriver à chasser son enfant lui criant « Tu n'es plus mon fils » ou vice-versa « Tu n'es plus mon père ». Cela peut se passer entre deux amis, deux collègues, entre le mari ou une femme. Et là où le péché pénètre, sa conséquence en est la mort, c'est-à-dire la séparation. Voyez, les personnes concernées continuent d'exister, mais la relation est morte. Troisièmement, nous pouvons être séparés de Dieu, nous pouvons être séparés avec les autres, mais nous pouvons être séparés aussi avec soi-même. Car on fait ce qu'on ne voudrait pas faire et on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Voyez, en nous, il y a une loi qui nous pousse, voyez, à désobéir. Nous n'apprenons jamais à un enfant à désobéir. Voyez, c'est naturel pour lui, à un moment donné, d'apprendre à dire non et de s'opposer à la volonté de ses parents. Voyez, par ailleurs, le paradis deviendrait un enfer si Dieu laissait des pécheurs y entrer. De plus, aucun d'eux ne pourrait supporter la sainteté de Dieu, car Dieu est amour, mais Dieu est saint. Il y a donc une séparation, une perdition éternelle pour ceux qui ne veulent pas de lui, dont la mort physique n'est qu'un aspect. C'est une mauvaise nouvelle. Et voyez, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais il a été créé pour le diable et pour les démons. Mais c'est notre refus de l'amour de Dieu, de nous tourner le dos à l'amour de Dieu, de refuser la présence de Dieu dans nos vies, voyez, la volonté de Dieu dans nos vies, eh bien nous-mêmes, cela nous conduit à nous séparer de Dieu ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Alors allons plus loin, troisième verset, dans Romains chapitre 5, verset 8, Romains chapitre 5, verset 8. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible parce que c'est la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu qui pourra, je dirais, vous convaincre. Romains 8, 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, mais Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, afin que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, Dieu ne vous a pas rejeté à cause de vos péchés. Il est séparé, vous êtes séparés de lui à cause de vos péchés. Mais voyez, c'est comme un mur qui est là entre vous et lui. Vous pensez peut-être croire en Dieu, que Dieu est le Créateur, mais vous n'avez aucune relation avec lui parce qu'il y a un mur. Et la Bible nous dit que ce mur, eh bien, qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés. Vous voyez, ce sont, je dirais, nos crimes, ce sont nos mensonges, toutes sortes de pensées, toutes sortes de méchancetés, de désobéissance, de rébellion. Mais malgré cela, eh bien, sachez que Dieu ne nous a pas rejetés, mais il a envoyé Jésus-Christ. Il a prouvé son amour pour vous, et bien sur la croix. Vous voyez, lorsque Christ est mort, on parle de la croix, le plus de Dieu, et bien le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et Dieu, quel est le sentiment que Dieu éprouve pour vous? Et bien, il vous aime. C'est pourquoi il désire vous parler au travers de sa parole. Vous voyez, il vous aime d'un amour éternel. Il est celui qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que vous ne périssiez point, mais que vous ayez la vie éternelle. Voyez, pour Dieu, nos fautes n'ont pas provoqué le rejet, mais le désir ardent de nous pardonner. Une histoire authentique pourra certainement vous aider à comprendre cet amour. À l'armée, de jeunes recrues apprenaient à lancer des grenades. Pendant que l'instructeur tournait le dos, l'un d'eux en cacha une dans sa poche. Il a sorti le soir venu dans le dortoir devant ses copains en admiration. Était-ce par gloriole ou par maladresse? Toujours est-il que le jeune homme dégoupilla la grenade, il prit peur et la laissa tomber à terre. Ayant utilisé cette arme toute la journée, tous les soldats du dortoir savaient deux choses. Premièrement, plus personne n'avait le temps de sortir du dortoir. Deuxièmement, elle était assez puissante pour tuer tout le monde. Et à ce moment précis, un jeune homme se jeta à plat ventre sur l'engin, sur la grenade, qui explosa immédiatement. Son corps déchiqueté servit de bouclier et tous les autres eurent la vie sauve. C'est ce que Jésus, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, a fait pour vous et pour moi. Il a pris la grenade de notre péché, ce péché que nous avons commis et qui nous entraîne chaque jour plus près de la mort et du juste jugement et qui nous sépare de la vie de Dieu, de la joie, du bonheur. Christ a donné sa vie volontairement, il est mort à notre place afin de nous offrir un pardon total et gratuit. Voyez, la mort de Jésus à la croix concilie parfaitement ces deux vérités. Dieu est juste et Dieu est amour. Et grâce à ce sacrifice, il peut nous considérer comme si nous n'avions jamais transgressé un seul commandement. Voyez, peut-être vous dites, mais j'ai trop fait de mal dans ma vie. L'important, ce n'est pas l'épaisseur du mur, voyez. Est-ce que ce mur a 10 cm? Est-ce que j'ai peu péché ou beaucoup péché? 3 mètres, voyez, l'épaisseur du mur. Mais le mur, qu'il est 10 cm ou 3 mètres, il vous sépare de la présence de Dieu. Vous êtes séparés dans la relation avec Dieu, dans la vie avec Dieu. Allons plus loin. Dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31, donc après les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous trouvez le livre des Actes. Au chapitre 17 et au verset 30 et 31, nous lisons. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jusqu'ici, la personne a découvert deux mauvaises nouvelles. Vous voyez, elle a péché, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et le salaire, eh bien, c'est la mort. Elle entend alors une nouvelle aussi étonnante que bouleversante qui reprend les termes de péché et de mort des deux premiers passages. Voyez, la question correctement posée, donc Dieu ne vous rejette pas à cause de votre péché, il vous aime et il désire que vous puissiez être réconcilié avec lui au travers de son Fils. Voyez, Dieu vous aime. Et ces vérités saisies, la personne consciemment ou non aura... Eh bien, besoin de dire, comme le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, mais que ferons-nous? Je suis séparé de Dieu, je suis privé de sa présence, de sa gloire, de sa vie, et le salaire de cet état de pécheur, eh bien, c'est la séparation éternelle, c'est la mort éternelle. Alors, que dois-je faire? Eh bien, il nous est dit que Dieu ne tient plus compte que des temps où les gens étaient ignorants. Et là, vous êtes en face, voyez, de la parole de Dieu qui vous explique ce chemin de salut, ce plan du salut. Et il appelle maintenant que tous les hommes, en tout lieu, eh bien, vous et moi, ici et maintenant, à changer de comportement. Il en a fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné, Jésus-Christ. Il en a donné la preuve à tous en ramenant cet homme de la mort à la vie. Le Christ au temps marqué est mort, Christ au temps marqué est ressuscité, Christ au temps marqué eh bien, est monté vers les cieux et Christ au temps marqué reviendra. Voyez, est-ce que Jésus est-il resté dans le tombeau? Non, Dieu l'a ramené à la vie. Maintenant que vous savez ces choses, quelle est la réponse que Dieu attend de vous? Eh bien, il attend un changement de comportement, il attend une repentance. Et il demande cela à tous, à vous. Et quel est le temps idéal pour le faire? Eh bien, c'est maintenant. Voyez, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et que devons-nous aller dans un endroit particulier pour nous engager à marcher avec lui? Non, je ne pense pas. Et vous avez raison, puisqu'il est écrit en tout lieu. Dieu est partout et vous pouvez donc... vous réconcilier avec lui ici et maintenant. Lui qui a créé les cieux vous voit, les yeux vous voient en ce moment. Lui qui a créé les oreilles vous entend. Et vous pouvez maintenant adresser à Dieu une prière. Il a conçu l'intelligence et le cœur et il vous comprend. Mais avant de faire cette démarche, qui est la plus importante de votre vie, j'aimerais m'assurer que vous saisissez toute la portée. Supposons que ma vie, que ma cave, soit remplie de détritus, de verres cassés, de vieilleries accumulées depuis des années, qu'elle sente le moisi, soit mal éclairée. Si un jour quelqu'un se présente à moi, désirant acheter ma cave, je peux en un instant lui la vendre et lui remettre les clés. Par contre, ce nouveau propriétaire mettra un certain temps pour en faire une cave accueillante, bien éclairée et utile. Je peux m'imaginer la visitant quelque temps plus tard et n'en croyant pas mes yeux. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez changer de propriétaire. C'est lui qui vous a créé et racheté du mal par la mort de Jésus. Mais c'est vous qui détenez les clés de votre vie tout entière. Jusqu'à maintenant, vous avez été le maître de votre existence. Vous voyez, vous avez fait votre propre, accompli votre propre volonté. Vous voyez, vous étiez indépendant. Vous ne souciez pas de Dieu, de soumettre votre Dieu. Mais Dieu cherche des fils et des filles, non des esclaves, des volontaires et des amis, et non des gens résignés ou partagés. Vous voyez, c'est pour ça, si vous entendez la voix du Seigneur au travers de cette étude, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous lui donnez votre vie comme réponse à son amour pour vous, il changera tout, vos buts, votre manière de penser, de réagir, de décider, de gérer vos relations, vos finances. C'est un grand pas de foi, mais c'est la plus belle chose qui puisse arriver à être un être humain. Voyez, se repentir, naître de nouveau. Car nous avons précisément été créés pour fonder nos vies sur sa sagesse, son amour, sa justice, qualité infiniment supérieure aux nôtres. Et pour nettoyer votre cave, Dieu demandera votre participation active. Il vous conduira à demander pardon et à accorder votre pardon aux autres, à renoncer à certaines attitudes, habitudes, relations. C'est ce que la Bible appelle les fruits de la repentance. Et tout commence dès maintenant, alors que vous décidez de donner votre vie à Christ. Allons plus loin. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, hein, au chapitre 3 et au verset 20. Nous lisons. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Voyez, certains estiment que ce verset s'adresse simplement à l'église de la Laodicée, rétrograde, tiède, et ne convient pas à l'évangélisation, mais on peut en parler de deux autres textes, par exemple Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu concernant la parole qui est en elle, il y avait cette vie et la vie était la lumière des hommes. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 14, 23. Celui qui m'aime obéira à ce que je dis, mon Père l'aimera. Et mon Père et moi viendrons à lui et nous habiterons chez lui. Voyez, le premier changement de comportement et le plus fondamental, c'est d'aimer et par conséquent obéir à Christ. Aimer Christ, c'est avant tout se donner à lui. C'est se tourner vers lui, c'est se repentir dans la foi et croire qu'il est l'envoyé du Père, le Fils du Dieu vivant. Aimer Christ, c'est avant tout se donner à lui. Lui obéir, c'est lui donner le gouvernement de nos vies. Vous voyez ? Et ces trois passages me semblent donc parfaitement convenir. L'expression de la foi en Christ part pour son œuvre de salut et une demande de pardon. Vous voyez ? Un don de soi en recevant Christ comme mon sauveur personnel, mon maître et mon Seigneur. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, lui avec moi. Où se trouve Jésus en ce moment ? Eh bien, il est devant la porte de ton cœur. Et cette image est surprenante car Jésus règne sur l'univers entier. Pourtant, il désire une communion si intense avec l'homme, une relation avec vous, qu'il veut faire de votre vie sa maison. Que reste-t-il à faire pour que votre corps et votre vie deviennent désormais son habitation? Eh bien, ce verset nous dit, lui demander d'entrer. Oui, Dieu a rendu cette invitation si simple que même un petit enfant peut la faire. Mais beaucoup préféraient entrer en communion avec Christ par leur savoir, leur diplôme, leur mérite, voyez, leurs finances, leurs bonnes œuvres. Ils échouent. Voyez, Jésus n'est pas venu instaurer une religion, mais il est venu instaurer un royaume. Et il désire vous réconcilier avec le Père. La vie chrétienne, il s'agit eh bien, d'une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'agit d'une marche dans la foi et dans l'obéissance. Voyez, voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur? Laissez-le entrer. Oui Seigneur, merci de m'aimer, de m'avoir donné la vie, d'être mort pour me sauver du péché. Je te demande pardon d'avoir vécu pour moi-même comme si tu n'existais pas. Entre dans ma vie, change-la, je te la donne. Elle t'appartient, tu es mon Seigneur. Amen. Et je vous invite à prendre du temps pour prier maintenant et dire Seigneur, tu frappes à la porte de mon cœur, tu es devant la porte. Moi, j'entends ta voix et j'ouvre la porte et je désire que tu fasses ta demeure en moi par ton esprit. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs, pour toutes sortes de relations brisées, pour toute offense, non-pardon, méchanceté, vol, mensonge, pensée orgueilleuse. Seigneur, pardon. Que ton sang vienne me purifier de tout péché et entre dans ma vie par ton esprit. Je t'accueille dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Donc voyez, le salut c'est la repentance plus la foi. C'est ce qu'on appelle la conversion, on se tourne vers Jésus-Christ. Et là, eh bien, Jésus entre dans nos vies par son esprit. Il nous fait naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de relation, de reconnexion. Soyez connectés avec Dieu. Voyez. Seigneur, merci pour le magnifique commencer maintenant dans cette vie selon ta promesse. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Voilà. Tu as dit aussi, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Merci pour cette alliance établie. Je te bénis, Seigneur. Et je prie que ta main puissante reste sur moi. Voyez, il y a une immense joie dans le ciel parce qu'une personne de plus a livré sa vie à Christ. Et vous êtes le sujet de cette joie. La prière comme la respiration pour le corps nécessaire à la vie nouvelle que vous avez commencé, voyez, la prière c'est la respiration de l'âme, la prière c'est parler avec Dieu, c'est avoir une communion avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Je vous encourage à rester très proche de Jésus dans vos pensées. Laissez-le vous conduire dans le processus de changement que vous avez commencé ensemble. Et j'aimerais vous laisser une dernière promesse écrite par l'apôtre Jean, que nous trouvons dans la première épître de Jean, non pas dans l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean au chapitre 5, versets 11 à 13. « Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Voyez, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Voici ce témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils du Dieu, au Fils de Dieu. Comprenez-vous ce passage? Quel est le cadeau que Dieu vous a fait? Il vous a donné la vie éternelle. éternelle. Vous voyez, la vie éternelle, c'est comme un cadeau, vous voyez, que Dieu nous donne, et il faut déballer ce cadeau, et toute votre vie, vous allez découvrir Dieu. Vous allez découvrir cette vie en abondance, la paix, la joie. Vous voyez, la victoire dans l'épreuve, la consolation dans les larmes, le soutien lorsque vous êtes faible, la direction lorsque vous êtes dans la confusion, vous voyez. La sagesse que Dieu pourra vous a donné, c'est toute une aventure. Devenir chrétien, devenir disciple de Jésus-Christ, celui qui aime et qui obéit à Jésus, eh bien, il passe par la repentance, par la foi, il se convertit, il se tourne vers Jésus, il accepte Jésus comme sauveur et seigneur personnel. Et la part de Dieu, eh bien, c'est que puissiez naître de nouveau. Et cette vie, lorsque vous avez dit oui à Jésus, alors la vie de Jésus, le Christ, est venu en vous. Même le Père et le Saint-Esprit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Vous devenez le temple du Saint-Esprit. Vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Et c'est pourquoi vous avez le témoignage intérieur. Donc je vous invite réellement à considérer ce chemin de foi. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ne reste pas privé de sa présence. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ne continue pas sur un chemin d'indépendance, de rébellion, de faire ta propre volonté. Vous voyez, c'est la mort, c'est la séparation. C'est toutes sortes de vies brisées avec les uns, avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. Sache que Dieu ne te rejette pas, mais Dieu prouve son amour envers toi. En ce que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Et c'est pourquoi Dieu demande, eh bien, annonce maintenant à tous les hommes et à toi en tout lieu que tu as te repentir. Car un jour, il fixera, et un jour où il jugera le monde. Et aujourd'hui est le jour du salut. C'est pourquoi si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais viens Jésus, ouvre la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et le dernier verset de ces 6 versets que nous avons étudiés, je t'écris ces choses, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous invite, après avoir entendu la parole de Dieu, à entrer en vous-même, à prendre du temps, à entrer dans votre chambre ou à vous mettre à genoux, ou à vous mettre dans un lieu et prier en disant « Seigneur Jésus, je désire t'ouvrir mon cœur, je me repens, je te demande pardon, je me tourne vers toi par la foi, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Alors, Seigneur, entre dans ma vie. Je désire naître de nouveau. Je désire accepter cette vie et cette vie éternelle. Je désire marcher avec ton esprit tous les jours de ma vie. Soyez bénis.